Bonjour, bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blanc au micro, Nicolas à la technique. Aujourd'hui, c'est la première partie de l'émission, c'est pour la bouillonnante Myriam Larrière qui va nous remplir les oreilles avec les histoires de sport. Ça, c'est on est bien, je suis bien curieux de savoir ce qu'elle va nous sortir. Et à la technique, Nicolas. Bien. Comment vas-tu, toi, Nicolas? Tu prends le micro?
Oui, ça va bien.
Ça va bien?
Oui, ça se passe bien.
Ok, merci, merci. Mais malgré le temps maussade dehors, là.
Ah, malgré le temps, oui, j'ai quand même eu une bonne journée.
Ok, d'accord. Ouais. Okay, quand on arrive ici, c'est... c'est la peine. Allez, puis en deuxième partie d'émission, on va recevoir le jeune chef prodigieux. Voilà, c'est directeur artistique de l'OPCM. L'OPCM, c'est quoi? C'est l'Orchestre Philharmonique et Chœur des Mélomanes. Voilà. Francis Chouanière, il va être avec nous durant la deuxième partie de l'émission. Là, on part tout de suite en musique avec Harlem Parade, Black Parade.
Motherland, drip on me. Honey, come on.
Harlem Parade, Black Parade, hier, original. Beyoncé, bien sûr, j'aime bien aussi ce Harlem Parade qui reprend ce tube à sa manière. Et puis bon, ben voilà, c'est ça. Voilà, il y a des gens qui se sont reconnus là-dedans, mais qui ont reconnu la pièce, pourquoi pas. Alors, Myriam Larage, la chroniqueuse de sport, qui a écouté la pièce avec nous. Je ne sais pas si elle s'est mise à se trémousser là-bas.
Presque, parce que je suis arrivée au milieu de la chanson. Alors.
Ah oui, bonjour Myriam.
Bonjour Fulgence, oui. Et bonjour à tous nos auditeurs, ça va bien?
Oui, ça va bien, merci, et toi?
Très bien, une journée pluvieuse comme ça, on se prépare à l'hiver.
Hein. Ouais, c'est ce que je disais à Nicolas ici, notre technicien. Alors Myriam, qu'est-ce que tu nous as préparé, même oui. Si il ne fait pas beau dehors, quand même, il y a du chaud dans le sport.
Il y a du chaud dans le sport comme toujours. Et on va parler de ce qu'il y a de plus proche, c'est qu'au JO d'hiver de Pékin 2022, la décision est tombée hier. La vaccination complète sera obligatoire pour les athlètes canadiens qui doivent participer au JO de Pékin cet hiver.
Il y a pas mal qui vont désister.
Quelques-uns. Hein, parce que alors mercredi, le Comité olympique canadien, le COC, et le Comité paralympique, le CPC, ont prévenu leurs athlètes concernés. Cette résolution a été adoptée par leur conseil d'administration et celui des athlètes.
Oui.
Donc rappelons que la vaccination, par contre, n'était pas obligatoire au JO de Tokyo. Hein.
Non, ce n'était pas obligatoire.
Oui, ce n'était pas obligatoire. Mais à Pékin, ça l'est. Et les 371 athlètes qui étaient présents à Tokyo, quand même, 95% étaient adéquatement vaccinés. Il restait une vingtaine qui étaient résistants. OK.
Okay
Alors, mais cette année à Pékin, les règles seront différentes. Okay. Si on n'est pas vacciné avec les deux doses, on ne peut pas prendre part au jeu. Les Jeux vont se dérouler dans une bulle plus hermétique qu'à Tokyo apparemment, car les visiteurs et les Chinois ne se côtoieront pas dans les gradins s'il y en a quelques-uns qui peuvent rentrer.
C'est comme si le virus venait d'ailleurs.
Et puis comme si en plus ça vient d'arriver chez eux. Hein. C'est comme ils sont encore plus sévères que les autres pays.
Ouais.
Alors les JO d'hiver, ils vont s'ouvrir, rappelons-le, le 4 février prochain et un mois plus tard, au mois de mars, pour les Paralympiques. On suivra ça, bien sûr.
Ouais.
Maintenant... Le hockey, le Canadien de Montréal, Fulgence, il a là. Après 4 matchs, le Canadien continue sur sa série de défaites. Certains crient déjà, rien ne va plus. D'autres parlent d'une équipe perdue et brisée. Il faut dire que sur les 4 défaites en 4 matchs, certaines ont été cuisantes. 5-1 contre Buffalo et un 5-0 mardi soir contre San Jose. Avec pourtant cette équipe qui avait une fiche technique avec des jeunes joueurs sans expérience et des piliers absents. Donc, tout le monde est estomaqué, tout le monde se pose des questions.
Oui, donc...
Ce que personne ne peut nier quand même, c'est que la défense du tricolore Montréal est faible, il faut le dire, et une attaque d'équipe sans profondeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant?
Et avec l'absence de Carey Price,
de pas mal de joueurs blessés. Alors, les partisans sont complètement découragés. Les optimistes défendent que c'est le début de la saison, bien sûr. Les fans complets... Quand même, ça se ressent même dans les billets de vente. Tu sais, il y a beaucoup de place vide dans le centre-ville.
Faut pas me dire qu'il y a une baisse déjà.
Oui, et puis les billets se vendent à $25. Alors, ceux qui veulent y aller, c'est le moment. Hein. À ce qui paraît que ça se vend au rabais. Alors, les joueurs, par contre, eux, ils disent « Bon, il faut pas virer fou », selon Ben Cariot. Selon l'attaquant Tyler Toffoli, on n'est pas sur la même longueur d'onde, dit-il.
Ah oui, mais jouer, gagner les matchs, ou bien faire des matchs nuls, et puis c'est tout, quoi.
Et voilà.
Voilà.
Et il dit « Il nous faut retrouver notre rythme et notre cohésion ». Alors, l'entraîneur-chef Dominique Ducharme, il cherche la bonne combinaison du trio, et il continue de brasser les cartes, pas plus tard qu'hier, à ce qui paraît, en entraînement, car ce soir, ils ont un match, hein, ils jouent contre la Caroline. Alors, on verra ça, si cette série va s'arrêter ce soir de défaite. Je laisse donc aux amateurs.
C'est douloureux pour le partisan quand même.
Oui.
Qui n'aime pas voir leur équipe perdre. Oui, surtout 4 défaites comme ça. De suite.
Et des défaites, comme je l'ai dit, des catastrophes. Hein,
des défaites cuisantes, comme tu l'as dit. Tu as trouvé le vrai mot, des défaites cuisantes.
Oui.
Hein.
Cuisantes, oui, le mot. Sommes-nous amateurs, toi puis moi, de hockey? Moi, oui.
Toi, oui, mais tu m'apprends beaucoup de choses.
Ouais. Mais en ce moment, je ne sais pas. Moi, je suis de celle de la vieille génération du vieux forum. Hein. Quand je suis arrivée au Québec, c'était là que j'ai aimé le hockey.
Je comprends. C'était la belle époque où le hockey même était à son apogée aussi. Hein.
Oui, non, mais on n'a pas gagné de coupe. Mais en tout cas, j'étais de celle de la génération des Vincent Danfousse. Hein. tout ça là.
Et parce que à cette époque, le soccer n'était même pas.
Oh non, ici, on
c'était à l'état embryonnaire, quoi, là. C'était à l'état embryonnaire à l'époque.
Exact. Ouais. J'ai une surprise pour toi, Fulgence.
Oui, laquelle?
Tu m'as demandé plusieurs fois dans les émissions. Quand est-ce que je vais voir le soccer féminin à Montréal?
Oui, allez, vas-y, donne-moi la bonne nouvelle.
Il fallait demander le million, Fulgence.
Oui.
Car 2 mois plus tard, après leur victoire olympique donc de Tokyo, il sera finalement possible de rendre hommage aux médailles d'or en bonne et due forme à l'occasion de leur tournée des célébrations, ça s'appelle. Cette tournée se réalise au niveau international quand même, car ils vont rencontrer en 2 matchs la Nouvelle-Zélande.
Oui.
Et les 2 matchs, devine. Alors, ils serviront à préparer le parcours, mais ils vont se passer à Ottawa samedi, après-demain. Alors, tu as 1 heure de route si tu veux y aller, si tu es vraiment...
Oui, c'est pas mal, mais... je croyais que tu me parlais de Montréal.
Voilà. Alors, au stade Saputo, elles seront mardi le 26 octobre. Alors, je t'ai dit l'autre fois, il faut que tu sois prêt à dégainer, Fulgence.
Attends.
Eh ben, achète-toi des billets ce soir. Parce qu'ils sont déjà en vente. Hein. Moi, j'ai déjà reçu sur mes emails.
Myriam, tu n'es pas en train de me raconter des histoires, me fait dormir debout. Hein.
Je t'assure. Voyons.
Je prends note. Merci de la bonne nouvelle.
Oui, mardi 26 octobre, ça plutôt, on est sérieux de seconde. Donc, ça sera le mardi 26 octobre. Alors, c'est le moment d'y aller si vous voulez aller les applaudir. Leur rendre hommage parce qu'elles ont été superbes aux Jeux Olympiques.
Oui.
Puis ça sera pour la Coupe du Monde de 2023. Ça sera un match qui compte quand même. Donc ça sera sérieux et ça sera pas de la rigolade.
Ah oui.
Alors, par ailleurs, depuis le mois d'août, ça c'est intéressant parce que tu me disais, tu te sortais toujours un débat, hein, le foot féminin, on ne donne pas assez de place. Alors, des discussions sont engagées sur l'absence de ligue professionnelle de soccer féminin au Canada parce qu'il n'y en a pas de ligue féminine au Canada. Alors les joueuses...
Attends, il n'y a pas de ligue féminine de soccer au Canada.
Au Canada,
ces filles qui jouent là ne font...
Elles sont les meilleures au monde, après les Américaines et les Françaises.
Elles n'appartiennent à aucune ligue de soccer.
Aucune. Alors les joueuses à fort potentiel doivent se rendre aux États-Unis pour leur carrière professionnelle. Ils doivent jouer soit dans un club américain, soit dans un club européen.
Oui.
Et voilà. Alors l'entraîneur-chef Bev Priestman assure qu'il y a beaucoup de travail qui se fait derrière les rideaux en ce moment par Canada Soccer et d'anciennes joueuses qui font des appels, qui réunissent des gens, des investisseurs pour implanter enfin le soccer professionnel au pays, que ce soit sous forme de ligue ou d'équipe ou de club, en tout cas peu importe. Alors on dit, mesdames, on ne lâche pas la bataille, on espère que ça va finir par aboutir ici chez nous.
Myriam, moi je savais que le soccer féminin au Canada était très avancé, mais qu'il n'y a pas de ligue.
C'est surprenant. Moi aussi, je ne savais pas.
C'est pas encore tombé de ma chaise, mais...
Oui, je ne tombe pas quand même.
Ouais.
On a besoin de toi, là.
C'est vrai, me surprend. Il était temps qu'il le fasse. Hein.
Il était temps, et c'est pour ça que ça explique maintenant pourquoi Sinclair, elle joue à Portland, pourquoi les deux que je vous ai nommés, Laurence, la semaine dernière, jouent à Chelsea ou au Paris Saint-Germain, l'autre aussi. Alors, ça explique tout ça.
Elles sont obligées de s'expatrier.
Elles sont obligées.
Oui.
Alors maintenant, soccer masculin, de bons résultats quand même. Après de bons résultats, l'équipe nationale du Canada, perce enfin le top 50 mondial, car la FIFA a mis à jour son classement hier, la liste des rangs des pays. Le Canada occupe le 48e échelon sur la scène internationale. Il était 70e au mois de mai, donc on a fait un bon pas mal.
Après les derniers bons résultats, là.
Exact.
Oui.
Alors, ce n'est pas notre meilleure position, car en 96, on a eu la meilleure, on était 40e. Pour ajouter à cela, au top 3...
Il ne faut pas se décourager.
Qui est au top 3, je te fais un quiz.
Ça va aller.
Qui est au top... Alors, le numéro 1 mondial, c'est qui?
C'est l'Allemagne.
Non. Alors, zéro.
C'est la France.
Non, c'est la Belgique au premier rang. Et ça, depuis 3 ans. Personne n'arrive à déloger la Belgique du premier rang. Suivi par le Brésil. Deuxième position. La France arrive en troisième position.
La France qui a le trophée mondial?
Qui a eu la Ligue des Nations, oui. Donc, elle arrive en troisième position.
La Belgique?
La Belgique en premier rang. Mais c'est pour ça qu'on dit que c'est la meilleure équipe. Tu sais, quand on arrive au soccer ou à l'Euro, on dit que c'est toujours la meilleure équipe, c'est les Belges. Bah, c'est eux qui sont en premier rang, Fulgence.
Avec les Lukaku, là, ça ne m'étonne pas.
Voilà. Et bien sûr, on a l'Italie qui est quatrième. L'Angleterre, cinquième. L'Argentine, 6e, l'Espagne, 7e, le Portugal, 8e, le Mexique, 9e.
Et l'Allemagne occupe quelle position?
Elle est après le top 10, l'Allemagne. Je pense qu'elle est 12-13. Alors, et le Danemark est 10e. Je vais vous donner le top 10. Voilà, c'est le classement.
Ah, bon, d'accord.
Hier,
ça ne m'attriste pas beaucoup, mais je sais qu'ils jouent bien. Ils sont, tu m'as appris la semaine passée qu'ils sont déjà qualifiés pour le Mondial 2022.
Oui, oui.
Alors, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe quand même.
Mais bien sûr que c'est une bonne équipe. Ils ont quand même, ils ont été quadruples champions du monde quand même.
Voilà, c'est
alors,
ça.
Mais ce qu'il faut noter, c'est que quand même ce classement va aider les équipes. Pourquoi il est important quand même ce classement? Il va aider les équipes pour le tirage au sort de la prochaine coupe.
Ok, ok.
Et ne l'oublions pas, ça approche très vite. C'est en avril 2022 à Doha au Qatar. C'est bientôt ça. Hein,
ouais, ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Ah, je ne sais pas s'ils ont fini la construction des stades. Là, ils ont mis des climatiseurs partout là, dans les stades,
partout,
si je ne me trompe pas. Des climatiseurs dans les stades.
J'ai hâte de voir ça, moi. Hein.
Des stades de soccer climatisés. Alors...
climatisés. On va peut-être voir des arbitres descendre avec des valises. Je ne sais pas, hein, on a déjà vu ça. Alors...
Tu nous apprends des choses, toi. Allez, on y va.
On y va, on continue toujours dans le soccer. Je vais mentionner rapidement que le CF de Montréal, eh ben, ils ont fait match nul hier avec une marque finale de 1-1 contre Orlando City.
Oui.
Ce qui rapporte un petit point. Et l'entraîneur-chef Wilfried Nancy l'accepte volontiers, ce petit point, parce qu'ils ont été complètement dominés par l'équipe floridienne. Alors, le CF de Montréal est au 6e rang de la section Est. On sont encore serrés en bas. Hein. On prend que les 8e ou les 7e, je pense, pour faire les séries. On est en bas de la liste quand même, mais bon.
Avant de quitter le CF ou bien FC Montréal, est-ce qu'ils ont eu de nouveaux joueurs, de nouvelles, durant le mercato, est-ce qu'ils ont eu de nouvelles têtes qui sont arrivées ou bien quoi?
Pas vraiment, je pense qu'il n'y a pas eu de grand changement. Le grand changement, c'est
les mêmes de l'année passée là qui sont restés.
Exact. Ils sont bien, ils sont en bonne position pour le moment. On ne peut pas dire que c'est catastrophique, ok?
Oui.
Ils tiennent le coup, puis ils sont au 6e rang, c'est bien, mais c'est serré.
Il peut faire mieux que ça, quoi.
Sûrement.
Voilà.
Mais là, ils ont été dominés par la Floride hier, alors quand même, parce que 1-1-1, ils l'ont arraché. Hein. Le but match nul à la fin, ça a été à l'arraché par Camacho. Donc, il dominait complètement les autres. Hein,
il est encore là, Camacho ?
Oh oui, il est encore là. C'est lui qui les a sauvés hier. Alors, on va finir avec la petite histoire. Il y en a toujours une.
Oui, surprends-nous là, s'il te plaît.
Oui, là, cette fois, c'est un peu tristounet. C'est un peu une déception parce que c'est le marathon de New York.
Oui.
Déception pour des milliers de coureurs étrangers fulgents voulant participer au marathon de New York. Et tu vas voir le non-sens. Les ressortissants européens, britanniques, indiens et chinois ne pourront pas participer au mythique marathon de New York le 7 novembre prochain. C'est bientôt, hein, dans deux semaines.
La raison,
car la réouverture des frontières des États-Unis qui est fermée depuis un an et demi, 18 mois, hein,
oui,
ne se fera que le lendemain, le 8 novembre. Alors, à cause de ce non-sens, le lendemain, des milliers de ressortissants et de coureurs ne pourront pas venir. La frontière est toujours fermée jusqu'au 8 novembre au matin. Alors le communiqué a indiqué, et je cite le communiqué, « Les participants internationaux qui ne peuvent pas se rendre aux États-Unis en raison de l'interdiction du président des États-Unis, rappelons que c'était Trump qui a imposé ça au printemps 2020, seront éligibles pour reporter leur entrée au vu du marathon de New York 2022, et pour alors ajouter à la frustration, toute annulation pour l'édition 2021 ne sera pas remboursée. » Alors voilà, c'est dit, c'est fait. Ils disent qu'ils ne peuvent pas, la frontière s'ouvre le 8, c'est le 8 que vous pouvez rentrer, et comme le marathon c'est le 7, eh ben vous ne pourrez pas participer. Alors,
qu'est-ce que la nouvelle administration peut faire dans ce cas-là?
C'est ça. Alors la solution, j'espère qu'ils vont réagir, ça c'est tombé hier. Hein. Alors
Ils vont réagir.
La planète va se fâcher là.
À un moment donné, il y a des limites aux choses. Quoi. Ces gens, même si c'est pas lui qui a fait cette loi ou bien pas pris cette décision, il est au pouvoir. Je parle de Biden, le président américain. Il a tout le pouvoir pour dire bon ben ça suffit là.
Mais maintenant, Fulgence, est-ce qu'on peut jouer sur ce décret qui est tombé? La frontière, c'est le 8 et pas un jour avant. C'est le 8 au matin qu'elle ouvre ou à minuit 01, je pense ils disent. D'ailleurs, il y a des Québécois qui sont prêts à y aller à minuit 01. Alors, donc. C'est le 8, le marathon c'est le 7, et ben ils ne viendront pas.
Bon, ça les organisateurs le savaient. Pourquoi ils attendent?
Exactement, donc à mon avis ça les arrange pas, peut-être justement pour tout ce fla-fla qu'il va falloir, est-ce qu'ils sont vaccinés, est-ce qu'ils
j'aime
sont
ça,
pas,
tout
est-ce
ce fla-fla.
Tout ça. Hein
ouais. Alors, c'est énervant. C'est énervant et puis bon, ben, non, on verra pas ces grands marathonniers là.
Voilà. Alors cette édition 2021, la 50e en plus, c'était spécial parce que c'est la 50e édition, devait accueillir 33 000 coureurs au lieu des 53 000 en 2019. Alors déjà, ils ont des milliers qui viennent.
Je ne vais même pas regarder.
Ah non, tu boycottes, ça y est.
Je ne vais même pas regarder. Parce que il y a des athlètes là, de ces pays là, dont, que tu viens de citer, là, d'ailleurs, qui devaient être là, que je voulais voir dans la foule. Quoi.
Souvent, on a des Africains qui arrivent en premier. Hein.
Tu parles des Kenyans, des Éthiopiens et autres là, qui sont dans les équipes européennes. Voilà, ils sont toujours là. Alors, tu as fini pour aujourd'hui ?
Oui, mais je rappelle juste que le mythique marathon créé quand même en 1970 attirait chaque année 250 000 touristes avec un impact économique de 415 millions de dollars ces dernières années. Eh bien,
voir rapidement ce qu'il peut faire d'ici le 5, le 6, même d'ici demain, ce qu'il peut faire s'il veut l'avoir, parce que tout est basé sur l'économie maintenant. Merci beaucoup, Myriam.
Oui, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Bonne soirée à toi.
Allez, bonne soirée, Fulgence, et à tout le monde.
Ouais.
Bye.
Aujourd'hui, c'est un atelier d'écriture, mais c'est un atelier d'écriture créative, celle qui permet de s'exprimer, celle qui permet de faire passer un message, celle qui permet tout simplement de laisser libre cours à notre imagination, à notre émotion, à nos sentiments. Et je vais vous guider dans l'atelier pour être capable de faire ça en vous montrant un exercice pour le faire. Nous allons écrire.
Je tiens en équilibre sur les aiguilles fragiles de l'amour et de l'amitié. Calme. Un bref instant d'oubli de pure sérénité, sans le regard de l'étranger comme une horloge sous moi qui vibre. Le temps m'a oublié. Dans son marasme routinier, comme la montre au mur fixé, une rare instance de liberté. D'un esprit vif, cicatrisé. Surprenante épilepsie d'un quotidien rempli d'embûches, mon Mont Everest, je le conquis. À chaque obstacle, je trébuche. À chaque envie de faire l'autruche. À chaque remarque de simples passants que l'handicap seulement effleure sans qu'ils en sentent toute la douleur. Ou encore même juste ce matin, fallait déjà que je sorte du lit. Mes plaies fantômes, oui, m'impatientent. L'humilité face à la vie. J'ai beau me dire que c'est injuste, mais l'empathie, je l'ai comprise. Un casse-tête de solutions, comment guérir est la question. Mais le plus dur n'est pas la cure, c'est vos manquements et perceptions. J'ai le moral bien acéré, déterminé de triompher. J'ai mis du temps à accepter, à refuser d'être isolé. À m'accepter comme amputé, à l'accepter comme aveuglé. À voir le jeune paralysé dans son fauteuil, les yeux briller. Des brouillardises est désormais le mot qui prime, tandis que d'autres dans l'ignorance nous sous-estiment. La société s'est adaptée, je le consens. On parle d'accessibilité, on fait des lois, j'en suis conscient. Mais le défi est dans le fond, pas dans la forme. Des rampes d'accès nous bâtissons, mais est-ce le cœur que l'on transforme? Quand pour l'aider vous hésitez, vous le voyez, mais le fuyez, est-ce par pitié ou juste par simple méchanceté? Mon entourage a comme mission le rôle du phare, quand je navigue l'incertitude, le désespoir qui m'accapare. Dès la naissance, on parle d'une vie tracée, une évidence. En grandissant, notre apparence est altérée. Nouveau contrat, faut s'adapter, naturellement, chimiquement ou peut-être médicalement. Si la détresse a sa violence, j'ai du courage dans mon silence, de l'espoir dans ton absence, juste un bémol sur le fil de mon existence. Toujours présent lorsqu'invisible, que tu fuis mon blanc des yeux, ou que tu juges que mon besoin soit dispendieux, ou même crédible. En vérité, j'ai de la chance. Toute chose arrive pour une raison. J'incarne la persévérance, mes petits enfants. L'admiration. vulnérable, mais résilient. Oui, j'aime la vie. Dans mes douleurs, la noirceur, quand sur ma peau, le soleil sourit. Je vous l'accorde, nos différences créent l'inconfort. Pourtant Morin l'a déjà dit, nos convergences nous rendent plus forts. Oui, l'union fait la force, c'est déjà dit, je le répète. Main dans la main, je parle d'amour et d'équité pour être honnête. À toi assis face à ces mots, on a tous un peu peur du noir. Je te passe le flambeau pour que cette fois tu puisses le voir. Sur ton chemin, tu observeras du coin de l'œil un il-elle qui tient fermement dans ses mains sa déficience comme une chandelle. Le feu, tu l'as dorénavant pour lui allumer la bougie. Un sourire, un salut, une convo si ça te dit. La compassion n'a pas de prix et encore moins est obligée. Mais le plus beau n'est pas l'idée, plutôt le geste d'un brin d'humanité.
Yao avec la complicité de Marianne Dumas au piano et violon, Olivier Philippe Auguste, et le titre de la pièce Miroir, Yao, Y-A-O, c'est son nom. Voilà. Alors, merci à Myriam de nous avoir fourni toutes ces nouvelles, toutes ces... Je ne savais même pas qu'il n'y avait pas de ligue de soccer, ligue féminine de soccer au Canada. Alors, bon, c'est bien, il était temps qu'ils se réveillent. Et puis, bon, ben, les Canadiens n'ont qu'à se ressaisir. Hein. Sinon, les grands amateurs de hockey là, vont plus supporter ces défaites-là. S'il y a encore quatre défaites qui viennent s'ajouter à celles-là, les gens ne vont plus acheter les billets, ils ne vont plus aller au Centre Bell. Et ils vont être découragés. Alors, je me dis, ils ont laissé trop dans l'ombre aussi le gardien qui remplace Carey Price. Carey. Bon, moi, c'était le meilleur joueur, c'était le gardien numéro 1. Le meilleur gardien numéro 1. On en reparlera la semaine prochaine avec Myriam. Et n'en sait plus. Restez à l'écoute. On vous revient après la petite pause publicitaire avec notre invité Francis Chouanière, le jeune chef prodigieux. Voilà, l'orchestre philharmonique et chœur des mélomanes pour la 7e saison 2021-2022. On vous revient tout de suite. Restez à l'écoute.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas. Thank you.
C'est la voix de Dominique Labelle qu'on vient d'écouter, gars, comme ça. Antonio Vivaldi, Il Turbato Mare, Hervé 627. Voilà, le jeune chef, prodigieux, Francis Chouanière, qui est au téléphone, qui va nous parler de la saison 2021-2022. C'est la 7e édition, si je ne me trompe pas, la 7e saison. Francis, corrigez-moi si je me trompe.
Oui, c'est bien ça.
Bonjour à vous, Francis Chouanière. Merci d'avoir le temps à la veille du grand événement, parce que c'est demain que ça démarre.
Oui, non, pas demain, c'est samedi.
C'est samedi, pardon, c'est le 23, demain c'est le 22, je m'excuse. C'est après-demain que ça démarre, oui. Donc il y a c'est les répétitions qui continuent pour l'instant. Et c'est avec le concert Vivaldi Gloria. C'est 7e saison en grande pompe avec le concert Vivaldi Gloria. Et pour ceux qui ne connaissent pas Francis, ce jeune chef, il est très jeune, très jeune, très jeune. J'ai pas besoin forcément de dire son âge, mais il est très jeune. Pour ceux qui nous ont écoutés ici en entrevue en juin, ils ont su. Il est le cofondateur de l'Orchestre Philharmonique et chœur des Mélomanes OPCM depuis 2016. Et c'est une manière pour lui de permettre aux jeunes qui sortent d'avoir une place, un lieu, un endroit, si je me trompe, il va me corriger, ou prendre leur musique, qui va devenir leur métier, pourquoi pas, au sérieux. Et puis quand les jeunes chefs comme ça, directeurs artistiques, on se retrouve avec une centaine d'artistes en face de soi, j'aimerais pas être à sa place. Francis, comment... j'aimerais pas être à votre place. Comment ça va? Ce métier, vous l'adorez toujours?
Oui, absolument. Je crois que c'est tellement puissant de réunir tous ces artistes, toutes ces voix,
oui,
ces cordes. Et je crois que tout le monde vient dans le même esprit pour livrer leur passion, oui, à travers la musique.
Oui, oui. Et la première représentation aura lieu le samedi 23 à la Maison Symphonique de Montréal, et le lundi, c'est-à-dire le lendemain, c'est-à-dire le dimanche à 14h au Palais Montcalm de Québec. Ils sont prêts? Ils sont prêts? Vous les avez bien préparés? Ils sont prêts, les musiciens?
Oui, oui, on a eu une répétition hier soir, très générale avant cette fin de semaine, et tout est bien en place pour ce concert.
Oui, 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 oui. Moi, c'est quand j'ai écouté la voix de la soprano Dominique Labelle et puis de la mezzo-soprano Marie-Andrée Mathieu, j'ai dit, mais comment est-ce que Francis a pu y réunir les deux, là?
C'est sûr, on parle déjà de deux générations, mais deux gens qui ont une voix qui se mélange très bien. Dominique, c'est sûr qu'elle est... Le baroque, elle a fait, c'était son métier pour des années. Elle est vraiment experte dans ce répertoire.
Oui.
Et Marie-Andrée Mathieu, elle a une très belle voix pure qui se mélange très bien avec Dominique, qui est d'une nouvelle génération aussi. Donc, je crois que c'est de jumeler les deux, c'est très spécial.
Oui, 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 oui. Et quand je les écoute, j'aimerais bien, je ne sais pas, quand je les écoute différemment, chacune dans son répertoire, je dis, waouh, ça c'est des voix, ça. Je ferme les yeux, et puis je fais mes oreilles, et puis je les écoute avec mon cœur. C'est quelque chose.
Oui.
Oh, ouais, c'est ce que je fais, et puis bon. Est-ce que vraiment, je pense bien que tous les billets sont partis, si je ne me trompe pas, là, pour le samedi à la Maison Symphonique, là, est-ce que vous avez droit à tous les sièges de la salle de la Maison Symphonique? Ou bien c'est encore 50-75%?
Techniquement, oui. On a le droit d'avoir la pleine capacité. À l'instant, on a quand même gardé le réduit parce que c'était quand même proche de la date.
Oui.
Mais oui, techniquement, on a le droit maintenant à la pleine capacité, qui est une très bonne nouvelle pour la culture.
Sous votre direction, 23 musiciens, l'ensemble de 23 musiciens et 70 chanteurs vont interpréter Enlevé de rideau, le légendaire Agadio de Tommaso Albinoni et Remo Giazzotto. Parlez-nous un peu de ça, s'il vous plaît. Ce lever de rideau-là.
Mmh. Oui, donc l'Adagio, c'est quand même une œuvre très connue d'Albinoni. Habituellement, c'est transcrit avec orgue et orchestre à cordes. Cette fois, on fait un arrangement qui est spécifiquement juste pour les cordes.
Okay.
Une œuvre très émouvante, très... ouais. c'est une œuvre que je crois ça touche un grand public. Beaucoup de personnes le connaissent. Après ça, on continue dans le concert avec 4 airs de Handel.
Oui.
Qui seront interprétés par Dominique Labelle.
Oui, oui. Friedrich Handel.
Oui, c'est ça. Mm-hmm. 2 airs de l'opéra Teseo.
Oui.
Un air d'Alcina, le Amio Cor, oui. Et le fameux de l'opéra Rinaldo, le Lascia Ch'io Pianga.
Ouais. Lascia Ch'io Pianga. Wow. Pianga. Ch'io Pianga. Rinaldo. Wow. Ouais, les absents auront tort, hein. Ça, sincèrement, ouais. Ceux qui ne feront pas le déplacement, là, vous voyez. Et puis, moi, j'aime la manière dont vous, quand vous dites, nos concerts font découvrir dans un répertoire varié les jeunes voix de notre chorale, ainsi que notre son pur, dynamique et passionné. Voilà. Ça, c'est auprès des solistes de vous travaillez auprès de classe mondiale, vos membres bénéficient d'un mentorat inestimable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez co-créé cet orchestre, l'OPCM.
Oui, c'est bien ça.
Oui, vous ne regrettez pas. Vous êtes content.
Non. Oui, je crois depuis cette dernière année, on a grossi beaucoup. On fait de plus en plus de concerts et je crois il y a de la place pour plus d'orchestres, pour plus de musique
oui,
au Québec.
Oui, oui. C'est une manière pour vous de démocratiser ce genre de musique.
Oui.
Quelque part, démystifier. Parce que les gens disent beaucoup c'est pour les autres. Francis, on va aller faire une petite pause avec une pause musicale, bien sûr, pas une pause publicitaire, avec Marie-André Mathieu. Avec la voix de Marie-André Mathieu.
Thank you.
Marie-André Mathieu, Giancarlo Scalia, pianiste. Le titre de la pièce, c'est Les chemins de l'amour. Alors, comme je le dis, Francis porte beaucoup de casquettes. Il n'est pas seulement chef d'orchestre, chef de chœur, il est aussi pianiste, compositeur et puis baryton. Voilà. Et il a été, il faut le dire, c'est un ancien de McGill auprès de Alexis Hauser. Il a été récipiendaire de plusieurs bourses d'excellence et de prix. Voilà, d'autres prix incluant les fondations. À son jeune âge, il dit, bon, mais quand il aura 30 ans, 40, 50 ans, alors là, il ne pourra plus parler et passer dans la porte de sa maison.
Ça devient trop long.
Ouais. Francis, alors c'est les centaines d'artistes qui seront, disons que c'est la soprano Dominique et la mezzo-soprano Marie-André. Pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, qui ne connaissent pas ce genre de musique, vraiment, si vous demandez, Francis, quelle est la différence entre une soprano et une mezzo-soprano? Qu'est-ce qui les différencie?
Donc, la soprano, elle a une voix plus haut.
Oui.
Plus légère. Habituellement, il y a beaucoup de sopranos qui sont aussi des coloratures. Ils montent très haut et c'est très rapide. Très oui. Rapide aussi. Mm-hmm. Mezzo, il y a un son plus bas, oui. Un peu plus riche. Ils chantent dans plus le milieu de leur registre. Comparé aux sopranos, ils sont toujours très hauts. Mais tous les deux, ils chantent à peu près quand même le même registre. C'est juste des légères différences. Mezzo plus bas,
oui.
Soprano un peu plus haut.
Ah, merci pour le beau travail que vous faites, Francis. Sincèrement, je sais pas, mais je sais même pas moi personnellement quand je lis tout ce que je découvre chaque fois ce que vous faites. Vous n'êtes pas seulement compositeur, en même temps aussi président des productions GFM. C'est une compagnie qui présente plusieurs concerts de haut niveau dans les plus prestigieuses salles de la région de Montréal, que les concerts du Seigneur des Anneaux, à la salle Wilfrid Pelletier, la place des Arts, ainsi que ça, Titanic et autres. Voilà. Pour le samedi, au fait, je me suis dit, est-ce que Francis, demain soir, est-ce qu'il va dormir à la veille de grands événements comme ça là, comment est-ce que vous arrivez à dormir, même Francis?
des fois, le jour avant le concert, c'est un peu plus difficile, parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent dans mon cerveau, oui. De la planification de l'événement ou détails de la partition. Beaucoup de choses qui se passent, mais entièrement, oui, je m'endors, mais je viens livrer un concert ou deux la même journée ou dans la même fin de semaine.
Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois, par exemple, comme ça, la veille d'un grand événement comme ça, et puis vous vous êtes dit, il y a quelque chose que j'ai oublié, mais je ne peux plus rattraper ça, mais je vais faire avec. Ça vous est déjà arrivé?
Je pense pas. Moi, je suis quelqu'un de très... détaillé.
Minutieux.
Très rare que j'oublie quelque chose.
Ouais. Tant mieux. Tant mieux.
C'est une bonne chose.
Oui, c'est une bonne chose. Quel est le sens de la musique dans votre vie?
Honnêtement, la musique fait 95% de ma vie. Je laisse. C'est dans chaque partie de ma journée. Je pense le matin, l'après-midi, le soir. Tout ce que je fais est vraiment dédié à la musique, que ce soit en produisant plus de concerts, que ce soit en faisant des répétitions avec piano, chœur, chanter. C'est vraiment, pour moi, c'est tellement important d'avoir cette connexion avec de l'art et la culture. Mais je souhaite vraiment que de plus en plus de gens viennent connecter avec ça.
Oui.
C'est tellement un aspect important dans notre vie.
Oui.
Et ouais.
ouais, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Presque. Vous n'êtes pas oublié de tout dire. Alors, bon, les 70 jeunes choristes bénévoles de 18 à 35 ans qui présentent 3 concerts par année. Je parle toujours de l'OPCM, hein. Voilà, parce que c'est de cet orchestre qu'il s'agit. Formé, en plus de sa saison régulière, vous participez aussi à des projets musicaux au Canada et aux États-Unis. Comment ces gens, vous les appelez choristes bénévoles. Pourquoi choristes bénévoles?
Il y a en fait beaucoup de chorales. Il y a, je crois, quelques centaines de chorales bénévoles au Québec. Techniquement, il y a beaucoup de chorales qui sont toutes des chorales non professionnelles.
Oui.
Mais l'OPCM, comparé à plusieurs chorales, nous, on est, même si on est non professionnel, c'est des choristes de haut niveau, c'est des choristes qui chantent dans des chorales depuis plusieurs années. La plupart, comme moi, ça fait 15 ans que je chante dans des chorales et j'ai juste 24 ans.
Okay.
Donc, il y a beaucoup de choristes qui sont jeunes, qui sont passionnés de la musique,
oui.
qui veulent faire ça, même si c'est pas leur métier,
oui.
ils veulent quand même continuer d'avoir cet aspect-là dans leur vie. Et je trouve que même pour tout le monde, et c'est la raison pourquoi il y a tellement de chœurs au Québec,
oui.
C'est aussi un loisir, c'est quelque chose qu'on fait ensemble, c'est très communautaire, on communique ensemble, on chante ensemble, c'est des bienfaisants de le faire ensemble, physiquement aussi.
Oui. Moi, je personnellement, du fond du cœur, je vous dis merci de votre engagement sur la scène musicale montréalaise. Oui, c'est sincèrement, avec tout ce que vous faites, là, j'ai dit, à un moment donné... il va falloir, oui, la relève. Les anciens ont fait leur part et puis c'est la nouvelle génération qui prend la relève. Et vous faites partie de cette nouvelle génération. Voilà. Je vous dis et merci de ce côté. Merci à vous. Un dernier mot à nos auditeurs pour les deux soirées que vous allez diriger. Voilà. Qui vont être dirigées par vous. Le samedi et le dimanche. Le samedi, c'est à Montréal et puis le dimanche, c'est à Québec. Un dernier mot à nos auditeurs avant de vous laisser. Allez vous penser à vos deux grandes soirées qui arrivent là.
Ah, deux derniers mots de moi?
Ah oui, de vous.
Ouais. Ah, bien, venez en grand nombre cette fin de semaine. Il reste encore des billets à la Maison Symphonique. Et ça sera un concert à s'en souvenir. Une bonne manière de commencer la saison après les dernières années, dernières années qu'on a eues.
Oui, oui.
Venez en grand nombre.
Oui. Samedi 23 octobre à 9h30 Maison Symphonique et puis le dimanche 24 octobre à 14h au Palais Mécalme à Québec. Merci beaucoup Francis Chouanière. Oui, merci à vous et puis bravo, bonne continuation dans toutes les entreprises musicales, tout votre engagement là, ça me fascine et puis je vous dis merci, bravo et à bientôt. Au plaisir de vous réentendre, Francis Chouanière.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Ouais, c'est l'OPCM, Brahms Requiem, OP45, Ein deutsches Requiem. Ok, on a fini comme ça. Merci à Myriam Larrache qui nous a rempli encore les oreilles avec les nouvelles du sport, les nouvelles sportives. Et merci à Francis Chouina, le jeune chef prodigieux, directeur artistique de l'OPCM. Voilà, en spectacle avec ces deux grandes, la soprano Dominique Labeille et puis Marie-André Mathieu, mezza-soprano, le samedi 23 et le dimanche 24. Voilà, ne ratez pas. Merci à toi, Nicolas, et merci à nos auditeurs, à nos fidèles auditeurs et auditrices. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Allez, et je vous dis ciao.